On a l'impression aujourd'hui que pour être entendu, que pour défendre ses intérêts, que pour réussir, il faut être égoïste et agressif. Et plus on voit de gens égoïstes et agressifs réussir, plus on se dit « Merde, pourquoi je respecterai les règles ?»
Matryoshka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis absolument heureuse de vous retrouver pour ce nouvel opus de la collection Matryoshka. Face à l'épidémie de narcissisme global, massif et quelque peu inquiétant aujourd'hui dans nos sociétés, nous avons choisi notre antidote. Il s'agit de Christophe André, le psychiatre et psychothérapeute. Son nouveau livre, chez Odile Jacob, a pour intention première de nous aider à ranger un peu notre ego. Il s'agit de s'estimer et s'oublier. Et l'intérêt de se concentrer ensemble aujourd'hui sur ce que c'est que l'estime de soi, c'est au-delà de l'estime de soi, par ricochet et dans la mesure du possible, de recadrer un petit peu cette société individualiste qui ne cesse de jongler entre complexes d'infériorité et de supériorité, et puis à l'échelle plus individuelle, de réduire nos anxiétés, de retrouver une image juste et mesurée de soi-même et, dans le fond, de lutter contre une sorte de perversion narcissique qui nous guette un peu trop souvent.
Le narcissisme, c'est un, tu as raison, les autres ont tort. Deux, sont les gens qui te ressemblent qui sont dans le vrai, ceux qui ne sont pas comme toi ne sont pas dans le vrai. Trois, profite au maximum, prends-en le max pour toi. Et pour les gens que tu aimes bien, et pour les gens qui te sont proches, etc. Alors après, il y a d'autres aspects hein, du narcissisme, la permanence d'un regard tourné vers le désir d'être reconnu, d'être supérieur aux autres, la tendance à mépriser un petit peu les autres s'ils ne sont pas puissants, intelligents. Si nous le régulions, ça ne serait pas un problème. Vous savez, le narcissisme, il est un peu inné aussi aux êtres humains. Quand on prend une photo de vous dans un groupe, on vous montre la photo.
Moi, je ne regarde pas moi en premier. Hein.
Ah oui, ben vous êtes super, super doué. Moi, je me regarde. Je commence à voir, est-ce que tu fermes les yeux? Est-ce que tu as l'air idiot? Et après, je regarde les autres. Il commence là. Et la lutte contre le narcissisme, c'est de se dire, c'est jamais fini. Il faut toujours que tu régules ce truc-là.
Vous parlez dans votre livre du narcissisme épidémique au XXIe siècle. En fait, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le narcissisme épidémique, c'est que malheureusement, quand je suis dans un système où tout le monde joue le jeu, la plupart d'entre nous, on a tendance à jouer le jeu. Si je suis dans un système où il commence à y avoir des tricheurs, des gens qui fraudent, des gens qui ne respectent pas les règles et qui en tirent des bénéfices, alors tout le monde va suivre. Et c'est une des explications de l'épidémie de narcissisme, c'est-à-dire qu'au fond, il nous semble, à tort, que pour notre intérêt personnel, c'est mieux de ne penser qu'à soi, c'est mieux d'essayer de passer avant les autres, etc., etc. Et voilà, notre société change terriblement, terriblement vite aussi. On ne sait pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, pour l'instant, c'est pour le bazar, quoi. C'est pour le désordre, pour le flou, pour la difficulté à lire ce qui se passe.
Ce que vous dites, c'est que, en fait, par exemple, la mondialisation, qui fait que ça a changé nos territoires, d'un côté, et dans l'autre sens, nos repères historiques, et surtout cette capacité à pouvoir se projeter et continuer à écrire l'histoire, fait que on n'a plus ces repères et que c'est ça qui a pu être le terreau de l'émergence de narcissisme dans nos sociétés occidentales.
Dans un premier temps, ça a augmenté notre inquiétude, ça a désactivé un petit peu notre machine à produire de la confiance. Moi, j'ai le souvenir je suis sorti de générations d'enfants dont les parents étaient persuadés que notre monde serait bien meilleur que le leur. Ça, aujourd'hui, c'est un peu perdu quand même. Et quand je suis très anxieux, j'ai besoin de me raccrocher à des certitudes. Et au fond, ces certitudes, c'est souvent, malheureusement, le repli plutôt que l'ouverture. Le repli sur moi, sur mon groupe, ma famille, ma tribu, les gens qui me ressemblent, les réseaux sociaux de gens qui pensent comme moi.
Face au narcissisme, aux égoïsmes ambiants, qu'est-ce que je peux moi donner, qu'est-ce que je peux faire, en quoi je peux être altruiste. L'estime de soi, il se positionne comment dans ce monde égoïste et narcissique?
Ah, L'estime de soi, c'est le rapport qu'on a avec nous-mêmes, hein. C'est comment on se voit, comment on se juge, comment on se traite. Et c'est quand même un truc important parce que c'est avec nous qu'on va passer la majeure partie de notre vie, ou même l'intégralité de notre vie. Et donc, c'est quand même un truc important de se poser la question, de savoir, voilà, qu'est-ce que je pense de moi, comment je me juge, quand j'ai du chagrin, comment je me traite, quand la vie est belle, comment je me traite, etc.
L'estime de soi, vous dites que ça commence, on commence à le conceptualiser dans les années 60.
Alors, scientifiquement.
Scientifiquement.
Voilà, les premières études scientifiques, c'est les années 60, les premières échelles pour évaluer l'estime de soi, etc. Mais en réalité, il faut regarder plus loin. C'est-à-dire, ces questions d'estime de soi, elles ne se posaient pas dans les sociétés traditionnelles où tout le monde restait à sa place. Vous naissiez dans une famille de paysans, vous restiez paysan. Vous naissiez dans une famille de nobles, de propriétaires, de riches bourgeois, vous restiez... Et quelle que soit votre valeur, quelle que soit votre capacité à vous aimer, à vous faire aimer par les autres, à avoir confiance en vous ou pas confiance en vous, il y avait peu de mobilité, peu de changement, et vos compétences vous servaient assez peu à réussir ou à échouer, au fond.
Donc il n'y avait pas une question de trouver une autre place que la sienne.
Voilà.
Il y avait des places à louer dans la vie, dans la société.
On était sur des rails. Au XXe siècle, ça commence à changer, plus de mobilité sociale et surtout plus de... d'accent mis sur ça en disant quand on veut on peut, les gens confiants peuvent construire des empires, etc. Et c'est vrai que la société le permet, malheureusement pas tous les gens méritants n'ont pas connu dans l'histoire le succès qu'ils méritaient, mais en tout cas voilà, les choses commencent à bouger et on commence à se dire tiens, quand même avoir confiance en soi, avoir foi en soi, avoir une bonne estime de soi, c'est un facteur de succès, c'est un facteur de réussite.
Donc ça, c'est après l'industrialisation.
Voilà, c'est fin 19e, début 20e, hein, c'est le mythe du self-made man, il faut croire en son étoile et tous ces trucs-là. Mmh. Après, les choses commencent à se gâter à la fin du 20e, avec cette espèce de ces années 80-90 en Occident, l'accent mis sur... Dans la société, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui remontent.
On est des cow-boys.
Voilà. Et c'est, voilà, la far westisation de la société. Ben, si tu échoues, c'est que tu es nul, quoi. Et si tu réussis, c'est que tu es bon. Cette confusion entre ma valeur et ma performance. On pensait que si j'étais performant, alors j'avais de la valeur, alors qu'il y a des grands bandits qui étaient performants et des gens bien qui ne l'étaient pas. Donc là, ça a commencé à dégringoler. Et puis après, la catastrophe écologique hein, dans cet écosystème, ça a été les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, avec leur mise en avant, leur promotion, des faux selfs. Hein, regardez ce qui se passe en général sur les réseaux sociaux. Personne ne poste des photos où on est moche, fatigué, où on est dans un endroit nul, avec des gens pas sympas. C'est toujours, on est beau, on est bronzé, on est dans des beaux endroits, on fait des trucs chouettes avec des gens sympas. Et ça, c'est angoissant pour beaucoup de personnes, parce qu'on a, dans notre cerveau, on a plein de petits logiciels, on a un logiciel à comparaison. Et donc, ce qu'attise en nous, ces réseaux sociaux, c'est ce que les sociologues appellent les tensions comparatives. Plus grosse voiture que moi, métier plus intéressant, plus gros salaire. Tous ces trucs-là sont délabrants pour l'estime de soi parce que ça nous pousse dans une quête qui est vaine d'abord, qui est épuisante, qui est très stressante. C'est comme l'alcool. L'alcool, ça peut être un truc plutôt sympa, sauf que si on en fait un mauvais usage, c'est très mauvais pour nous et pour notre entourage.
Ces tensions comparatives permanentes sont non seulement délabrantes pour l'estime de soi, mais en plus, elles participent au fait de nous déshumaniser, de nous chosifier d'une certaine façon, de faire que chacun d'entre nous se considère un peu parfois comme une sorte de produit comparable à un autre produit. Mais est-ce vraiment juste, est-ce vraiment correct que ma valeur soit indexée à de tels calculs? N'est-ce pas à moi de savoir ce que je vaux selon mes propres critères? Eh bien, c'est sur ce chemin-là que nous engage cette fameuse estime de soi. Alors, Christophe André nous fait cheminer en trois étapes. La première, c'est comment je me vois, quels sont mes défauts, mes qualités. La deuxième de ces étapes, c'est comment est-ce que je me juge. Et la troisième, c'est comment je me traite alors. Étape par étape, on va revenir avec lui sur tout ça. Ça paraît évident, mais c'est pas si simple. Il y a des pièges.
Comment je me vois, comment je me juge, comment je me traite. on peut faire des erreurs aux trois niveaux. Comment je me vois, c'est-à-dire est-ce que j'ai tendance à voir plutôt mes défauts au lieu de voir mes qualités.
Est-ce que déjà, sur cette première étape, c'est comment je me vois par rapport aux autres ou on n'est pas dans le comparateur à ce moment-là?
Par rapport aux autres, forcément. À l'estime de soi. L'estime de soi, oui, vous avez raison de souligner ça. Pour certains chercheurs, c'est juste un sociomètre. Finalement, c'est le sentiment que vous avez de votre statut dans le groupe. Si vous pensez que vous êtes dans le groupe et pas à l'extérieur, c'est bon. Et puis si vous pensez que vous êtes en train de faire la course en tête, c'est encore meilleur. C'est un sociomètre. Donc, les thermomètres mesurent la température et les sociomètres mesurent le sentiment qu'on a d'acceptation sociale. Donc, effectivement, je me vois en fonction de ce qui me semble être nécessaire. Si Robinson Crusoe, il n'a pas besoin de l'estime de soi. Il est tout seul, il rencontre personne, il verra plus jamais personne.
Deuxième étape,
après le regard, le jugement. Et là aussi, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Et là encore, influencé par la société dans laquelle j'évolue, je peux considérer que même mes qualités ne sont pas très importantes. Je veux dire, ok, tout le monde te dit que t'es gentil, mais être gentil dans cette société, c'est être couillon, quoi. C'est se faire avoir, c'est être faible, c'est se faire marcher sur la tête par les pas gentils. Donc voilà, c'est quand même un problème. Donc je peux juger que mes qualités ne sont pas si importantes et que mes défauts, par contre, tu es émotif, ça c'est catastrophique. L'émotivité, que les autres voient que tu es fragilisé, on vit dans une société du chacun pour soi, du combat, faut pas montrer ses faiblesses, et donc je peux juger que ce qui pourrait être une qualité, enfin je dis émotivité, c'est plutôt une sensibilité, mais non, je parlais des défauts. Donc un défaut, c'est pas un petit défaut, quelque chose, voilà, c'est une catastrophe absolue. Quand je vis dans une société qui met l'accent sur la compétition, sur les vainqueurs, sur l'égoïsme, les champions et tout, forcément, ça va influencer ce que je vais penser de mes qualités ou de mes défauts. Les gentils, sympas, altruistes, ils vont penser que c'est des qualités qui sont nulles, alors que les égoïstes, durs, etc., vont se dire ça, c'est pas des défauts, ça, c'est des choses nécessaires.
Et ce jugement, il se fait encore par rapport à des critères de société. On est toujours là-dedans.
Oui, et c'est pour ça, c'est ce qu'on disait tout
à
l'heure.
Parce que la troisième étape, après, on va arriver, quand je me traite, c'est pas pareil.
Presque. Comment je me traite, là aussi, c'est quand même quelque chose qui est très influencé par l'environnement social. Jusqu'aux années 50-60, vous aviez des parents qui éduquaient leurs enfants à la dure, c'est-à-dire qui faisaient peu de câlins, qui écoutaient peu les larmes et les plaintes, ou pas trop, et qui eux-mêmes se traités assez durement, qui travaillaient beaucoup, qui se reposaient assez peu. Donc quand vous grandissez dans une société comme ça, si vous échouez, vous ne vous dites pas « c'est la vie d'échouer », vous vous engueulez, vous dites « il faut travailler encore plus dur ». Si je vis dans une société où il y a beaucoup de compétitivité, chaque fois que je remporte un succès, quel qu'il soit, un succès sentimental, professionnel, sportif, bricolage, je vais me dire « Yes, t'es le plus fort !» Mais là, c'est mal parti, ça commence mal. On ne devrait pas se dire ça, « t'es le plus fort !» On devrait se dire « Super, je suis bien content d'avoir réussi, mais je suis ni le plus fort ni le moins fort. » On devrait pouvoir s'en foutre de ces choses-là. Ce succès, il est dû à quoi? Il est dû à tes efforts, bravo mon gars. Il est dû aux gens qui t'ont appris à travailler comme ça, merci les amis. Il est dû à l'école, il est dû à tes parents. Et là, on est sur un système de régulation de l'estime de soi bien plus efficace que « Ouais, t'es le plus fort !»
Mais continuons ensemble à suivre Christophe André dans cette réflexion, au-delà de cette estime de soi, comment je me vois, comment je me juge, comment je me traite. Il nous pousse aussi dans le prolongement de tout ça à s'interroger sur ce qui compte pour moi, autour de moi, et donc sur l'impact de mes actes. On l'écoute.
Toutes ces pratiques dont on a beaucoup parlé là, ces dernières années, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, où on montre que les émotions sociales agréables comme l'admiration, la gratitude, la compassion, la bienveillance, non seulement font du bien aux gens qui en bénéficient, on fait du bien avec, avec ça autour de nous, mais nous font du bien à nous aussi, comme si on était câblé pour être récompensé chaque fois qu'on est gentil. Biologiquement, c'est le cas.
C'est-à-dire, biologiquement, comment ça se passe ? Outre le fait que moi, je suis absolument d'accord avec vous que quand on donne, c'est beaucoup mieux que quand on ne donne pas.
Oui, oui.
Et que donner, c'est un peu recevoir. Mais outre ces paroles qui sont belles...
Où sont les preuves ?
Oui, où sont les preuves ?
Ah ben, c'est important.
Racontez-nous.
Bah, c'est simple, c'est-à-dire... C'est un peu comme le sexe, finalement.
Je comprends tout de suite.
Est-ce que nous nous livrerions à des activités sexuelles sans récompense ? Parce que, c'est, voilà, un rapport sexuel, c'est du boulot. Hein. Il faut trouver quelqu'un, le convaincre, il faut bouger son corps. C'est des efforts. Ces efforts ne nous pèsent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont récompensés par le plaisir.
Ou alors ils assouvissent le besoin. Et il n'y a pas toujours le plaisir au bout.
Quand il n'y a pas le plaisir, ben, on a de moins en moins envie quand même de pratiquer ces efforts sexuels.
Restons sur sexuelles, le parallèle.
Voilà. C'est pareil pour l'altruisme ou la bienveillance. Quand je suis altruiste avec un inconnu qui passe dans la rue, et c'est quelqu'un qui renverse toutes ses affaires sur le trottoir, je passe 10 minutes à l'aider, à tout ramasser, à le réconforter, etc. Et puis je m'en vais. Je n'ai fait que perdre du temps. Or, quand vous regardez toutes les études sur l'altruisme, les comportements altruistes rendent les gens plus heureux. Pourquoi ? Parce que nous sommes une espèce qui a besoin de l'altruisme. Si les humains, cet animal social qu'est l'humain, n'avaient pas dans leur cerveau des petits logiciels à spontanéité altruiste, le mouvement spontané d'un humain, sauf si on lui a appris le contraire après, si on l'a endoctriné, mais le mouvement spontané d'un humain envers quelqu'un qui est dans le pétrin, c'est de l'aider. Et la récompense cérébrale, c'est que ça lui fait du bien d'aider. Donc ça, c'est un truc très important à comprendre, c'est-à-dire l'altruisme, la gentillesse, la douceur, la compassion, non seulement c'est bien de le faire, mais faire le bien me fait du bien.
Il y a un mot que je ne connaissais pas, qui est celui de bienveilleur. Qu'est-ce que c'est un bienveilleur dans ce monde de domination ? Quelle est sa place ? Qui est-il ?
Alors le bienveilleur ou la bienveilleuse, hein, c'est quelqu'un qui est vigilant, qui est éveillé pour faire le bien autour de lui, sans aucune demande de reconnaissance. Quand il y a des bienveilleurs dans une équipe au boulot, eh bien c'est les gens qui vont aider, qui vont consoler, sans négociation, sans attendre quoi que ce soit en retour, parce qu'ils considèrent que qu'on ne peut pas vivre sans ça. Et quand ces bienveilleurs s'en vont, changent de service, partent à la retraite, tout à coup quelque chose change, quelque chose d'une espèce de douceur invisible, de fluidifiant, disparaît. Et même si ce n'est pas de la violence qui surgit, il y a une espèce de surcroît de froideur, d'indifférence qui se met à manquer à tout le monde.
Il y a un autre élément dont vous parlez dans votre livre qui m'intéresse aussi, c'est cet acronyme MQM, meilleur que la moyenne. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, ça, ce côté meilleur que la moyenne ?
L'effet meilleur que la moyenne, il est très très bien connu dans des chercheurs en matière d'estime de soi. Par exemple, vous interrogez 100 conducteurs ou conductrices de voiture, ou 100 profs, ou 100 étudiants, etc. Mm-hmm. Et vous demandez, par exemple, aux gens qui conduisent, est-ce que vous pensez que vous êtes une conductrice ou un conducteur aussi prudent que les autres ? Un peu moins prudent, quand même, ou un peu plus prudent ? 80% des personnes disent « Oh non, je conduis quand même un peu plus prudemment que les autres, je pense que je conduis un peu mieux que les gens, voilà. » Mais cet effet meilleur que la moyenne, c'est cette espèce de petit biais inconscient qu'on a tous pour se réconforter, pour se valoriser, pour se dire « je suis quelqu'un de bien ».
C'est pas du narcissisme. C'est une suffisance un peu paresseuse, c'est ça.
Ouais, voilà, oui, c'est un peu paresseux.
Donc il y a ceux qui ont une estime de soi tranquille,
ouais,
on va dire. C'est tout un travail dont vous parlez, sauf que vous rajoutez « s'oublier ».
Quand on observe les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, c'est-à-dire, une fois de plus, pas les narcissiques et leurs complexes de supériorité, mais les gens qui ont un bon rapport à eux-mêmes, qui sont capables de vous parler de leurs qualités sans se hausser du col, de leurs défauts sans s'inférioriser, qui sont capables, quand ils ont échoué, de se réconforter tout en se disant ensuite, bon, maintenant, mets-toi au boulot. Enfin, voilà, quand ils réussissent, de se dire, bon, ben, tant mieux. C'est-à-dire, plus votre estime de soi fonctionne bien, plus elle vous fout la paix et elle vous permet de vous tourner vers l'extérieur parce que vous êtes sécurisé par rapport à vous-même. Vous n'êtes pas sans arrêt en train de vous demander ce que vous valez, comment vous apparaissez, ce que les autres pensent de vous. Ça, c'est épuisant. Plus l'estime de soi est bruyante, plus ça veut dire que le boulot est encore à conduire. Et donc, d'où le côté s'oublier. Hein. C'est ce que les bouddhistes appellent l'ego tranquille. Hein. Il y a eu tout un tas de travaux à un moment donné, grâce à la méditation justement et aux apports de la psychologie bouddhiste, sur le quiet ego, c'est-à-dire l'ego tranquille. Bernanos, il disait, il est plus facile que l'on croit de se mépriser. La grâce est de s'oublier. Et ça, je trouve ça génial. La grâce, la vraie grâce, c'est de s'oublier.
Et oui, donc s'oublier, c'est aussi une façon de se remettre à sa juste place, sans doute. Mais revenons à notre question qui nous obsède chez Matryoshka, c'est qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures et quels sont les actes qui ont un impact demain sur le devenir de la société de nos enfants. Par rapport à ça, aujourd'hui, on est dans une société particulièrement anxieuse, voire souvent décliniste, et on s'aperçoit que lorsqu'on a peur, on est tétanisé, et lorsqu'on est tétanisé, on n'arrive plus à avancer. Mais il faut savoir, tel que nous le décrit Christophe André, c'est que les choses peuvent s'inverser. Et pour lutter contre l'angoisse, qu'est-ce qui est prescrit de faire? Eh bien, de bouger.
L'action, elle est anxiolytique parce que beaucoup de nos angoisses viennent du stress et de l'inhibition de l'action. Ça, on a montré que quand on, par exemple, ça c'est de la science, qui est connue maintenant du grand public, c'est des travaux déjà anciens, quand vous administrez des chocs électriques à des animaux, c'est pas bien, mais on fait ça parfois dans les labos, pas mortel, hein, ils survivent, mais des chocs désagréables, selon que les animaux peuvent échapper au choc, sauter par-dessus une petite barrière, qu'ils soient obligés de les subir, même à quantité de choc égale, ceux qui ont pu agir pour échapper sont beaucoup moins abîmés biologiquement par le stress. Ils ont moins d'ulcères de stress, moins de sécrétions de cortisol, etc. Donc biologiquement, l'action est une sorte d'antidote à l'angoisse. On est équipé pour ça et c'est normal. Hein. Le point de départ de ça, c'est d'échapper à la mort. Dans le monde naturel, il faut que lorsque vous êtes stressé, le stress vous mobilise au lieu de vous immobiliser. Enfin, parfois, il faut s'immobiliser pour ne pas se faire repérer par les prédateurs, mais en général, il faut se battre ou il faut fuir. Donc il y a ce côté animal, peut-être d'ailleurs, plus que biologique, dans l'effet anxiolytique de l'action. Et puis, il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'image de soi. Rester figé, pétrifié par rapport au problème, va me renvoyer ce sentiment d'impuissance qu'aucun humain n'aime ressentir. Et chez un certain nombre d'entre nous, ce sentiment d'impuissance va se transformer et se métaboliser en agression contre soi.
Il y a un point, par exemple, qui m'intéresse dans ce que vous avez écrit, c'est les biais de négativité. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un atavisme au niveau du cerveau, de voir a priori ce qui dysfonctionnerait. Et donc, quels sont les leviers pour évoluer ?
Le savoir. Le savoir, on a hérité d'un cerveau, effectivement, qui a traversé des dizaines de milliers d'années où on était en danger, et donc qui, pour notre survie, surréagit au négatif. On se souvient mieux des ennuis que des joies, on focalise plus notre attention sur ce qui va mal autour de nous que sur ce qui va bien. C'est une question de survie. L'évolution nous a équipés, pas pour le bonheur, mais pour la survie. Le bonheur, c'est notre affaire, c'est à nous de faire ce travail. Donc, ce cerveau archaïque, ben, c'est le nôtre, voilà, il a plein de vertus, plein de qualités, mais il y a ce gros défaut dont vous parlez, ce biais de négativité. Que faire? Ben, le savoir.
Mais c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une très bonne nouvelle, moi, je trouve. Parce que si, après tout, le bonheur, c'est en plus,
oui.
Mais la survie, c'est nécessaire.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
Que si notre cerveau, il est fait pour nous aider à survivre Après tout, c'est ça qu'on a peur de perdre aujourd'hui. C'est la vie.
Il y a quelque chose qui culpabilise beaucoup de gens, c'est est-ce que je peux me permettre d'être heureux alors que le monde va mal? Si je travaille à mon propre bonheur alors que tout va mal autour de moi, est-ce que c'est de l'égoïsme? Pas forcément. Pas forcément, parce que le fait d'essayer de se sentir bien, d'aller bien, d'être heureux, c'est quelque chose qui va me donner cette énergie dont on parlait tout à l'heure pour l'action. La dépression me retire de l'action, m'enlève des forces et j'ai moins de force pour agir.
Et donc pour les jeunes générations, aujourd'hui, on voit les chiffres sur l'anxiété qui augmentent d'année en année.
Ouais,
enfin, en France, en tous les cas,
partout, c'est absolument incroyable. Partout on la mesure.
Donc cette anxiété qui est mesurée comme grandissante, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants qui arrivent et qui vont prendre la main demain face à cette anxiété croissante? Continue de donner, continue d'aller partager. Ouais. Tu vas trouver un sens à l'histoire et ça va t'aider à avancer ou est-ce qu'il y a d'autres leviers?
C'est un paradoxe, ce surcroît d'anxiété, parce qu'en réalité, malgré tout ce qui se passe, nos sociétés sont quand même plus sûres que les sociétés traditionnelles. Autrefois, des guerres, il y en avait encore plus, et en proportion, elles étaient encore plus massacrantes. Ça, on a du mal à le croire, mais les historiens montrent que des guerres en Europe, comme la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, ou les guerres... même les guerres napoléoniennes ou les guerres de l'Antiquité, c'était des massacres, mais il tuait 90% des gens dans les pays qui traversaient. Donc notre monde est moins dangereux, notre monde est quand même, malgré tout, moins violent. Il est beaucoup plus intolérant à la violence, on en parle plus.
Le problème, c'est quoi? C'est notre conscience.
Et donc, on est beaucoup plus anxieux parce que on a, d'une part, davantage conscience de tout ce qui ne va pas, on est beaucoup moins fataliste qu'autrefois. Et il y a un autre truc, c'est que nos sociétés sont beaucoup plus illisibles. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas.
La complexité du monde.
Voilà, beaucoup plus complexe. Mais ça va de la complexité de l'actualité à la complexité de quoi on marche mon smartphone. On est en perte de contrôle et ça, c'est un facteur d'anxiété. L'anxiété, c'est une allergie à la perte de contrôle, une allergie à l'incertitude.
Je vous pose une dernière question. Face à cette anxiété, qu'est-ce que je dis à mes enfants?
Alors, il y a ce que vous allez dire, il y a ce que vous allez montrer. Ce que vous allez dire, ben voilà, c'est des trucs de chef d'équipe, il faut dire, oh là là, c'est compliqué, mais on va y arriver, quoi, en gros, avec les nuances.
Ouais,
et okay. Après, surtout, c'est ce qu'on montre. C'est-à-dire, je crois que c'est très bien pour nos enfants de nous voir inquiets, de nous voir déprimés, de nous voir énervés. Et c'est très bien qu'ils voient ce qu'on fait quand on est soucieux, quand on est inquiet. C'est-à-dire, voilà, moi, je suis comme toi, je me fais du souci pour l'avenir de la planète, etc. Pour la violence, j'en sais rien. Et du coup, ben voilà ce que je vais essayer de faire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi, tu veux faire des trucs? C'est-à-dire qu'ils nous voient à l'heure par rapport à nos émotions, à nos inquiétudes. Et ça, je crois que c'est le meilleur enseignement plutôt que leur faire la leçon, quoi, en quelque sorte.
Merci beaucoup Christophe André pour tout ça. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. Merci à vous de le partager, de continuer à nous accompagner dans toute notre aventure Matrioshka. Nous allons poursuivre nos entretiens pour enrichir cette collection de cadeaux de personnes qui veulent nous transmettre ce que l'on doit donner aux générations qui viennent. Alors continuez à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, partout. Écrivez-nous et nous on vous dit à très bientôt. Je vous embrasse. Salut. Matrioshka.